CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour, bonjour, et merci d'être avec nous dans ce MAG. Aujourd'hui, on vous proposera une sortie nature, à peine, ce vendredi, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, qui court en fait tout ce mois de février, avec plein d'animations un peu partout dans le monde, en France et dans le Tarn-et-Garonne, dont vous pouvez retrouver le programme sur www.zone-humide.org. Mais avant ça, et juste après la musique, les coups de cœur du réseau des médiathèques, deux livres à découvrir, après Stevie Wonder.
Very superstitious.
bien dans le mag du Tarn-et-Garonne avec, comme tous les mardis, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de la communauté de communes Castille-Rouergue, Gorge de l'Aveyron, avec sa coordinatrice, Marion Cosson. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique des coups de cœur du réseau des médiathèques. Aujourd'hui, j'aborderai le thème du huis clos. Tout d'abord, avec le roman de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit, puis avec le roman de Marion Brunet, Plein gris. Laurent Mauvignier est un auteur que je suis depuis presque 20 ans maintenant et que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Il est fidèle aux éditions de Minuit, chez qui il est édité depuis le début. Si on doit trouver un fil conducteur dans son œuvre, celui du fait divers pourrait en être un. Dans Histoire de la nuit, Laurent Mauvignier fait le récit d'une prise d'otage dans un hameau de campagne, l'Abassé, qui pourrait avoir lieu dans n'importe quelle zone rurale reculée. Le nombre de personnages est réduit dans ce huis clos. Pour résumer brièvement l'histoire, Marion fête ses 40 ans. Son mari Patrice et leur fille préparent cette soirée, à laquelle sont invités aussi la voisine, une artiste atypique, et deux collègues de Marion. Le couple de Marion et Patrice semble mal assorti. Un agriculteur taiseux et une femme sortie de nulle part qui élue de son passé. C'est alors que des invités surprises font leur apparition, faisant basculer ce moment festif en scène d'horreur. Laurent Mauvignier innove et signe ici un thriller. Il crée une tension narrative dans ce huis clos haletant. L'écriture de Mauvignier renforce le côté haletant avec ses phrases longues au bout desquelles il recule le moment de poser un point. Il repousse le moment de l'action en usant de longues descriptions, en analysant les émotions des personnages jusque dans les détails. Le deuxième roman que je voulais vous présenter se déroule aussi à huis clos. Il s'agit de Plein gris de Marion Brunet. Le dernier roman de Marion Brunet, Plein gris, apparu en janvier 2021. Il s'agit d'un thriller pour ados qui se déroule à huis clos sur un bateau. Des adolescents férus de navigation partent ensemble pour un périple en bateau. Ils quittent la Bretagne pour rejoindre l'Irlande. Les personnages sont au nombre de 5. Il y a 2 couples et Clarence, le leader charismatique du groupe. Le roman s'ouvre sur la mort par noyade de Clarence. Est-ce un meurtre? Et si tel est le cas, qui est le ou la coupable? S'ensuit une tempête terrible qui fait couler le bateau. Le roman avance comme un conte à rebours pour permettre au lecteur de comprendre comment l'histoire en est arrivée au meurtre de cet adolescent. Les personnages tentent de survivre en pleine mer, seuls, sans nourriture, dans un environnement hostile. Marion Brunet dépeint avec brio, comme à son habitude, les relations entre adolescents, les amitiés et les amours. Ces 2 livres sont à retrouver dans le réseau des médiathèques du QRGA. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Marion. Marion Cosson, la coordinatrice du réseau des médiathèques de la communauté de communes Quercy-Rouergue-Gorge de l'Aveyron. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur du réseau des médiathèques en podcast sur le site cfmradio.fr. Après la musique, dans ce mag, on vous propose, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, une sortie à peine. C'est ce vendredi.
Devant l'immense, je ferme les yeux. Un peu de patience, je rêve, je fais un vœu. Mais toi tu fais tourner la tête aux étoiles. Mes idées s'en mêlent, se démêlent, s'éloignent. Si je compte les heures, si je ne c'est qu'il n'est pas trop tard. Perdu dans ton regard. Si je compte les jours, si j'attends mon tour, c'est que j'aime à y croire. Perdu dans ton regard. Jusqu'à, ou jusqu'à l'autre. Pour une nuit éternelle.
FM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. C'est le thème de cette année pour la Journée mondiale des zones humides, dont on parle aujourd'hui avec François Léger. Bonjour François.
Bonjour Lisa.
Animateur du réseau Natura 2000 dans le coin qui propose une sortie nature à peine à cette occasion. Ce sera le 11 février avec une balade dans les flaques, s'armer de ses bottes, de son parapluie, zone humide, tout est dans le nom.
Oui, c'est ça. On est à cette saison-là un peu forcément sous la contrainte de la météo. Donc c'est pour ça, vu que c'est une émission qui se fera en extérieur, on invite tous ceux qui vont venir nous rejoindre à s'équiper au cas où. Puisque bon, au mois de février, effectivement, on peut avoir des bonnes précipitations, donc autant se mettre être bien équipé.
La Journée mondiale des zones humides, c'est depuis 2001, elle célèbre la signature de la Convention de Ramsar pour la préservation des zones humides, donc habitat naturel de prédilection pour de très nombreuses espèces, zones humides qui sont largement menacées.
Ouais, c'est ça, effectivement. Le nom de Ramsar, c'est une ville iranienne où il a été signé une convention sur les zones humides et leur préservation en février 71, donc 1971. Ça commence à une cinquantaine d'années maintenant. Et depuis les années 2000, en France, sur tout le mois de février, il y a différentes actions, animations qui sont menées par tout un tas de structures pour mettre en valeur justement ces milieux qui sont effectivement menacés, alors qu'en fait c'est hyper riche en espèces, en habitats. Juste quelques petits chiffres comme ça. Au niveau français, on estime que à peu près 50% des espèces d'oiseaux sont dépendantes des zones humides. 30% des espèces végétales remarquables et menacées sont aussi des espèces de zones humides. Je ne parlerai même pas des amphibiens et des libellules qui, effectivement, si on n'a pas de zone humide, ne peuvent plus vivre du tout. Donc ça montre vraiment tout l'intérêt de préserver ces habitats et ces milieux particuliers.
Et quand on dit zone humide, on ne parle pas que de l'étang et de la mare. On parle aussi de la petite flaque boueuse au fond du jardin.
Oui, c'est ça, effectivement. Alors, la définition même des zones humides est assez vaste. En gros, si on prend le texte issu du Code de l'environnement, hein, c'est les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, donc un petit peu un mélange des deux, que ce soit de façon permanente ou temporaire, avec, lorsqu'il y a de la végétation, des cortèges qui sont dominés par des plantes qu'on appelle hygrophiles, pendant une partie de l'année. Donc en gros, effectivement, c'est ça, il y a vraiment tout un panel, si je puis dire, de zones humides. On en distingue trois grands milieux principaux. D'un côté, on va avoir les milieux humides dits continentaux, donc là c'est principalement avec de l'eau douce à l'intérieur des terres, ça va être les marais, les tourbières, les prairies humides, les landes, les mares, ce genre de choses. Après, on va avoir les milieux humides littoraux. Donc on voit un petit peu le côté salé qui arrive, hein, donc le côté sur les côtes, avec des zones estuariennes, des étangs d'arrière-dunes, des vasières, des lagunes, des mangroves, par exemple. Et une dernière catégorie qui, là, va être ce qu'on appelle des milieux humides aménagés. Donc là, on a vraiment la patte de l'homme qui va se mettre sur ces milieux-là. Ça peut être les marais salants, par exemple. Ça peut être tous les habitats qui sont créés avec les retenues d'eau. Donc voilà, on voit qu'il y a une véritable diversité sur ce type de milieux.
Milieux qui sont menacés.
Oui, grosso modo, c'est malheureusement l'un des milieux qui trinque le plus, hein, en quelque sorte, alors que c'est des milieux qui assurent une énorme, de multiples fonctions pour la biodiversité, mais pour nous aussi. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est un support de vie pour de très nombreuses espèces, c'est ce qu'on a dit en début d'intervention. Ça permet aussi de stocker énormément de carbone, parce qu'en fait, ces milieux-là sont riches et permettent le stockage de ce composé. On a aussi une action qui permet de tamponner un petit peu ce qu'on appelle les effets du changement climatique, avec ce qu'on voit malheureusement trop souvent récemment, hein, donc les inondations liées à des précipitations intenses. Donc voilà, et en plus, le dernier service, en quelque sorte, que les zones humides peuvent nous rendre, c'est celui de préserver la qualité de l'eau, puisqu'en fait, une zone humide agit un peu comme un rein, il va filtrer l'eau qui est reçue pour capter certaines matières minérales et organiques, le conserver et redonner en quelque sorte uniquement de l'eau plutôt pure, si on peut le dire ainsi.
Après la musique dans ce mag, on continue avec François Léger de vous parler de ces journées mondiales des zones humides et on vous propose donc cette sortie nature qui aura lieu à peine ce vendredi.
S'arrêter si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
Dans ce mag du Tarn-et-Garonne, on est en train de vous proposer, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, une sortie nature. C'est à peine, on est avec François Léger, animateur du site Nature à 2000 en Tarn-et-Garonne. Lors de cette sortie nature que vous organisez donc à peine ce 11 février, on va visiter des flaques.
Ouais, alors, un petit peu plus, j'espère. Le but, c'est donc le lieu de rendez-vous est situé à peine en bordure de l'Aveyron. Donc l'idée, c'est un peu de prospecter les berges de l'Aveyron pour voir un petit peu ce qui s'y trouve. On a aussi un petit ruisseau qui arrive depuis le haut du village. Donc on va voir les différents types de zones humides aussi. Et effectivement, peut-être que si quelques ornières sont présentes, on aura peut-être la chance d'observer quelques amphibiens qui se baladent, qui profitent de la zone. Et le but, c'est surtout d'échanger en fait ensemble sur qu'est-ce qu'une zone humide, pourquoi il faut les préserver, et comment on les connaît un petit peu, puisqu'en fait on ne préserve jamais autant quelque chose qu'on connaît. Donc voilà, c'est un peu toute l'idée, la philosophie de la sortie.
Puisqu'on y est, hein, comment on préserve une zone humide? Alors peut-être à titre d'exemple, préserver l'Aveyron par exemple, effectivement, on ne veut pas jeter ses ordures dedans. Après, on aura des difficultés à la sécher quand même.
Oui, mais alors après, par exemple, il faut aussi veiller à maintenir ce qu'on appelle les ripisylves. Donc ce sont les boisements qu'il y a sur les berges qui, au-delà de servir de lieu de vie, de déplacement, de véritables corridors pour de nombreuses espèces, sont aussi des éléments qui permettent de maintenir la berge et donc qui permettent d'éviter des épisodes d'érosion, notamment lors des crues. et ça peut aussi permettre justement du coup de protéger la population riveraine. Donc on voit bien un petit peu la double utilité de la préservation de ces habitats qu'on appelle les ripisylves.
Et après, à titre personnel, pour chacun, peut creuser une petite mare au fond de son jardin ?
Alors, il faut faire attention parce que parfois, ça peut rentrer dans, comment dire, dans certaines réglementations, suivant où c'est situé, tout ça. Mais oui, effectivement, suivant où vous êtes localisé, vous pouvez très bien recréer un écosystème comme ça dans votre jardin, en faisant attention, hein, notamment si vous voulez y planter quelques plantes aquatiques ou sur les berges, faire attention à ce que vous allez utiliser, ne pas planter ce qu'on appelle des espèces en gros se développent ailleurs, pas sur le territoire, et qui sont introduites notamment par des achats, je ne sais pas, soit en jardinerie, parfois sur Internet, et qui ensuite, replantées chez nous, se dispersent dans le milieu naturel et ont un impact fort en prenant le dessus, par exemple, sur des végétations endémiques et en modifiant totalement l'écosystème, en ayant un impact, du coup, sur la faune et sur la flore.
Une zone humide qui l'est en hiver, en printemps et en automne, mais qui ne l'est pas en été, est quand même une zone humide.
Oui, tout à fait. C'est justement ce qu'indique bien le code de l'environnement, c'est ce côté temporaire. C'est-à-dire que, voilà, même si c'est que de façon, comme son nom l'indique, temporaire, ça reste une zone humide. Le meilleur exemple, c'est certaines mares ou certains ruisselets, certains petits cours d'eau. Voilà, il y a des exemples, notamment de quelques affluents qu'on retrouve au niveau de la Vère, qui, durant une partie de l'année, ne sont plus en eau, parce que il n'y a plus du tout de courant à l'intérieur, il n'y a plus du tout de flotte. Mais ça reste pourtant des zones humides.
Agir pour les zones humides, c'est donc agir pour l'humanité et la nature. Alors bon, l'humanité et la nature, c'est inutile de les dissocier quand même.
Pour, vaut mieux parler de vivant à la limite, plutôt oui. Que de nature ou d'humanité. Oui. C'est un peu plus approprié, on va dire.
Célébrons le vivant donc le 11 février lors de cette sortie nature à peine dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Il y a des manifestations un petit peu partout dans le monde sur la zone Natura 2000 que vous gérez, François Léger. Donc, Causse de Gossou, Gorge de l'Aveyron.
Alors, en fait, il y a deux sites sur lesquels on travaille principalement. Causse de Gossou et site proche sur lequel on a fait une animation l'année dernière. Mm-hmm. Et l'autre site, Gorge de l'Aveyron, Causse proche et Vallée de l'Aver, sur lequel on est cette année. Après, pour ceux que ça intéresse, vous avez le site zone-humide.org, zone humide au pluriel, sur lequel vous avez un portail qui recense un peu toutes les animations liées à ces journées mondiales des zones humides, justement, que vous pouvez trouver aussi bien dans le coin qu'ailleurs en France. Donc voilà, si ça peut en intéresser certains, c'est sur ce site-là que ça se passe.
Et sur la page Facebook de Natura 2000, site de Gossou et Causse proche et Gorge de l'Aveyron, on peut retrouver les contacts pour s'inscrire lors de cette journée du 11 février. Alors on va les dire maintenant, les contacts. Il faut envoyer un petit mail à françois.leger@mtda.fr. MTDA étant le bureau d'études mandaté par l'État pour assurer la gestion de ces sites. François Léger, donc merci beaucoup.
Bonne journée.
Et ce mag sera réécouté en podcast sur le site cfmradio.fr et écoutable aussi lors de sa rediffusion à 17h et à 21h30.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no.